Le 12 octobre 2024, au Christ-Roi à Toulouse, s'est tenu un colloque intitulé La scène et la croix, consacré à l'Eucharistie vue par les philosophes René Girard et Pierre Gardeil. Dans ce cadre, voici la conférence donnée par Claire Bressolette sur le thème Girard, Maritain et l'Eucharistie. Claire Bressolette est doctoresse lettres et spécialiste de Jacques Maritain. Elle expose son point de vue de l'Eucharistie qui donne un angle de vue différent de celui de Pierre Gardeil et René Girard.
Alors Maritain, je le présente en bref parce qu'il est inclassable. Pour la plupart des gens, il est de droite parce qu'une casserole traîne après lui, celle de l'Action française. Il hérite avec Maurras d'un patrimoine, puisque quelqu'un qui meurt en 1418 fait légataire universel de sa fortune, Maurras et Maritain. Maurras se réjouit, il n'a pas de journal pour son Action française, il crée son journal, et Maritain se réjouit parce qu'il tiendra les colonnes de philosophie dans le journal. Mais Maritain n'a jamais fait partie de l'Action française. Maritain écrira en 1929 « Primauté du spirituel » en réponse à « Politique d'abord » 1913 de Maurras. Maritain défend le point de vue de Rome. Il écrit en 27, juste après la condamnation de l'Action française en 1926, « Pourquoi Rome a parlé ?» Donc, il n'est pas à droite. Est-il à gauche? En 1936, guerre d'Espagne. Tous les évêques espagnols suivent Franco. Maritain dit « Non, 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 ce n'est pas possible. » Il faut une troisième voie entre les républicains et Franco. Comment vous n'êtes plus en état de grâce, vous ne suivez plus les évêques, l'église, mais enfin, anathème, tout ce que vous avez écrit jusqu'ici était valable, maintenant, l'imprimatur ne vous sera plus donné. Oh, que faire de Maritain? Ni à gauche, ni à droite. 1956, 20 ans après 1936, c'est une cabale à Rome. Contre Maritain, on ressort les vieilles casseroles. Que faire de cet homme qui a été de 47 à 48 ambassadeur à Rome près le Vatican? Pourquoi? Parce que De Gaulle, en 44, le croise à New York. Que faisait Maritain à New York? Il organisait une résistance. Tous ses amis juifs, il essayait de les sauver. Lui est marié à Raïssa Oumansoff, juive, et vivant avec sa sœur Vera. Autant dire que son biotope, c'était le judaïsme. En 1938, premier intellectuel au monde à écrire « Impossible antisémitisme ». Donc je viens de vous dire, il est marié à une juive, il prend des risques. Non, non, il écrit « Impossible antisémitisme ». L'antisémitisme n'est pas un problème, mais un mystère. Parce que le judaïsme est un mystère, c'est le peuple élu. Différence entre problème et mystère. Inclassable, d'autant plus qu'après la mort de Vera, 31 janvier 59, et de Raïssa, en novembre 60, donc en 10 mois, il perd les deux sœurs, il est démuni. Que faire? Il est oblat de Saint-Benoît, parce que Maritain, c'est un anarchiste. À 17 ans, il écrit « Il faut pendre le dernier des curés avec le boyau du dernier des prêtres. La propriété, c'est le vol, et vive Proudhon !» Il est rimbaldien, d'un côté donc la philosophie marxiste, parce que les pauvres, il ne peut pas supporter cette injustice. Et de l'autre côté, sur sa page de cahier de Henri IV, il y a bien Rimbaud, Mallarmé, le symbolisme. Anarchiste, il se roule par terre, cherchant le sens de la vie. Puis il tombe amoureux de Raïssa. Il est quand même petit-fils de Renan, par sa mère, Geneviève Favre. Raïssa et Jacques forment un couple magnifique qui milite pour les réfugiés russes, etc. Mais voilà qu'au Jardin des Plantes, un jour, après 6 mois de mariage, ils décident de se donner la mort. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le sens de la vie. La philosophie à l'époque, qu'est-ce que c'est? Auguste Comte, avec les trois âges. L'âge mythique de la théologie. L'âge de la métaphysique, un intermédiaire entre les deux. Mais l'âge adulte du progrès et celui de la science. Et cette différence entre trois âges ne vaut pas seulement au plan de l'histoire, mais elle vaut aussi au plan de chaque philosophe qui passe par ces trois âges. Autrement dit, un métaphysicien, c'est quelqu'un d'immature. De non parfait. L'état de perfection, c'est le scientisme. Au plan de l'histoire, comme au plan de l'individu. Alors que faire? Où trouver de l'oxygène? chez personne. Et oui, 1902, Peggy prend par la main Raissa et Jacques, venez écouter au Collège de France Bergson. Et Maritain dira, Bergson nous a développé l'éros métaphysique. Cette aspiration qui fait qu'il y a une troisième dimension, pour ne pas dire une cinquième. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut un peu plus pour trouver le sens de la vie. Bergson, c'est l'éros, mais ce n'est pas encore la métaphysique. Et ils vont trouver une recension de la femme pauvre. Ah, ça a l'air bien ce roman. C'est Lombois qui l'a écrit. On l'achète. Oh, on le dévore. On écrit à l'auteur. Vite, vite, on monte à Montmartre. On monte par les grands escaliers. On arrive à Montmartre et on découvre quoi ? Qui ? Ah, un pauvre. Débraillé. Les boutons sont mal cousus. Il a une guitare. Un chien. Deux filles. Une épouse. Et des romans. Léon Blois. Maritain écrira « La cathédrale était à l'intérieur. Tous les autres font des pharisiens qui blanchissent les tombeaux. La cathédrale calcinée était à l'intérieur. Quand on ouvrait la porte de Léon Blois, on ne sortait pas pareil. Le monde était ordonné différemment. Commotion ! Voilà que le sens de la vie commence à germer dans leur âme. 11 juin 1906, baptême à Montmartre. Les trois maritains sont baptisés, Jacques, Raissa, Vera. Qui sont les parrains et marraines? Je vous laisse le deviner. Blois, évidemment. Août 1906, donc deux mois après, Maritain est parti à Heidelberg. Pourquoi? Impossible de faire la philosophie. Il est agrégé de philosophie depuis 1905. Maintenant qu'on a la foi, c'est pas possible. C'est incompatible. Donc, je vais faire de la biologie. Sa passion, c'est la biologie. Il rejoint le vitaliste Hans Driesch qui travaille à Heidelberg. Et nous voici, nouveaux biologistes. On y va pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, leur conversion a fait qu'ils sont forcément coachés, comme on dit maintenant, par des dominicains. Entre autres, par le père Humbert Clérissac, qui leur remet, par hasard, ça vous étonne, la somme de saint Thomas entre les mains. Et là, merveille, découverte, on peut faire de la philosophie tout en étant chrétien. Alors, changement de cap, je serai l'apôtre des temps modernes, malheur à moi si je ne thomistise pas, vous reconnaissez une réécriture de saint Paul, terminé la biologie, 1908, retour à Paris, on relève les manches et on va essayer de faire un apostolat de l'intelligence. Et puis là, on reprend le train que j'ai laissé tout à l'heure, Maurras, compagnie et compagnie. Je vous ai présenté Maritain. Il me reste à vous présenter le deuxième wagon, le voici veuf. Que fait-il ? En février 1961, il décide d'être toulousain, notre plus grand bonheur. Il mourra en 73, le 28 avril, à 7h du matin, d'une attaque cardiaque. Pouf, terminé. Il attendait la mort. Et donc, pendant ces 12 années toulousaines, il va partager la vie des petits frères de Foucault dans une baraque en bois, près du couvent Lacordaire des Dominicains. Et il va donner des cours au noviciat des petits frères de Foucault. Et il recevra la Bible en 71. Splendide. Un jeune novice qu'on voit à pratiquement 90 ans. Il a 89 ans. Petit frère de Foucault. La messe n'est pas périphérique pour Maritain. D'où le thème d'aujourd'hui, la scène et la croix. Ici, j'ai fait un chiasme. J'ai intitulé la messe, c'est là où il y a le sacrifice, et l'Eucharistie, Eucharistein, rendre grâce. Maritain se pose la question. Et il se la pose avec un correspondant de taille, dès 1922, l'abbé Journet, qui deviendra le futur cardinal Journet. C'est l'abbé Journet qui interroge Maritain et lui dit « Écoutez, j'aimerais vraiment écrire un livre sur la messe, mais avec mon cœur. Je viens de lire Le Père de la Taille et je trouve quand même que c'est bizarre. Il parle du sacrifice de la messe comme si le sacrifice était au ciel, repris dans le Christ en gloire, et que finalement le Christ glorieux serait d'abord un Christ sacrifié qui permettrait de comprendre la messe comme un sacrifice permanent. » Maritain répond en philosophe et pas en théologien, vraiment en philosophe, et il lui envoie un feuillet, on est déjà en 1924, un feuillet absolument sublime, dans lequel on va retrouver des petits schémas. Mais avant d'arriver à ces petits schémas, je voudrais poser une question qui est une ligne de crête. Le jansénisme est une hérésie, parce qu'il fait du sacrifice une flagellation, c'est-à-dire on se regarde en train de se flageller, on se met au centre. L'accent tonique n'est pas sur la bonne syllabe. Et cette hérésie, elle s'arrête quand ? Ben au 19e. Elle ne s'arrête pas avec la destruction de Port-Royal par Louis XIV. Elle s'arrête avec la petite Thérèse. Avec cette Thérèse de l'enfant Jésus qui dit, c'est tout simple, avec sa théologie de l'ascenseur, vous mettez dans les bras de Jésus-Christ et il vous monte. L'accent tonique n'est plus sur le « je », sur le « moi » qui se regarde, peut-être, en train de se sacrifier. C'est-à-dire que le sacrifice du Christ, le problème, c'est son application. Et donc, sa mention. La messe est-elle une simple remémoration du sacrifice ? Est-elle un revécu du sacrifice ? Qu'implique-t-elle pour le fidèle ? Qui se sacrifie au moment où ça a lieu, mais sous quel mode ? Il n'y a pas de sang sur l'autel. Qui se sacrifie toute sa vie, comme on a entendu ce matin. La ligne de crête est étroite. Il y a une joie du sacrifice, mais qui n'est pas un masochisme, qui n'est pas un auto-narcissisme, qui n'est pas du jansénisme. Et c'est la première diapositive que nous pouvons voir qui s'enchaîne ici, je pense. Donc, à ma chère filleule Vera, pour qu'elle s'isole avec son vieux parrain dans la petite cellule pleine de joie, où l'on souffre pour ceux qui ne savent pas souffrir, Léon Blois, Pentecôte 1917, méditation d'un solitaire, c'est bien la veine bloyenne, hein, c'est un, il a de la verve. Mais c'est très profond, et je me suis dit que pour introduire à une conférence sur René Girard, qui a déjà pris 10 minutes, alors qu'il faut que je sois vraiment à 35, je suis mal partie, c'était bien, je suis qu'à l'introduction. C'était bien pourquoi ? Parce qu'on voit la question du sacrifice, excusez-moi pour l'expression moderne, connectée à celle de la joie, à celle de l'intériorité et à celle un peu du bouc émissaire. Un pour tous, un pour les autres, pour ceux qui ne savent pas souffrir. Donc ce n'est pas une question périphérique, celle soulevée par René Girard. Alors quel est le lien entre Maritain et René Girard ? Aucun du côté de Maritain. Peut-être a-t-il lu « Mensonges romantiques et vérité romanaise » 61, c'est possible. 72, le bouc émissaire, non, probablement pas. Il a d'autres chats à fouetter. En revanche, René Girard, dans l'autobiographie magnifique de Benoît Chantre, dans les notes, il précise « René Girard est lecteur de Maritain ». Il dit « Je lis du Maritain ». Oui, c'est la grande figure des années 20 et 30, la moyenne figure après la guerre. Pourquoi ? Parce que c'est Camus et Sartre qui prennent le haut du pavé. Et donc là, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été prononcés, existentialisme et structuralisme ou structure. Pour Maritain, l'existentialisme, c'est pas celui de Sartre, c'est celui de saint Thomas d'Aquin. Il écrit en 47, alors qu'il est ambassadeur à Rome, le court traité de l'existence et de l'existant, qui est la réponse à Sartre. En deux temps, deux mouvements, de quoi s'agit-il ? Sartre fait la différence entre l'en-soi et le pour-soi. Le coupe-papier est un en-soi. Il est défini avant d'être créé, parce qu'il n'a qu'une fonction, c'est d'être coupe-papier. Donc il a une naissance, en quelque sorte. L'homme est un pour-soi, parce qu'on ne peut pas le définir avant. Sa liberté fait que, à chaque moment, il se crée, à chaque moment, il se définit. Donc, l'existence précède l'essence. Voilà pour Sartre. Et puis, de fil en aiguille, l'existence sera seule avec le développement de la liberté. L'être est un en-soi qui ne doit jamais devenir... Pardon, l'homme est un en-soi qui ne doit jamais être rabattu sur un en-soi. Il est un pour-soi, d'où le garçon de café que vous connaissez tous, celui qui va jouer un rôle, etc. Donc, Maritain dit... L'existentialisme de Sartre est un académisme. Pourquoi ? Quelle est la définition de l'académisme pour Maritain ? C'est quand on sépare l'existence et l'essence. Quand on ne tient pas la rigueur entre quelque chose qui est difficile à penser. Et pour Maritain, il écrit en 42, avant Sartre. Pendant qu'il est à New York, il écrit un petit texte qui dit « Saint Thomas, premier existentialiste ». Pourquoi ? Parce que c'est l'acte d'exister qui est premier, qui ne nie pas notre essence, mais notre acte. Et cette dimension d'acte d'exister, elle va s'appliquer à une lecture que Maritain va faire de la messe. Alors là, il faut peut-être serrer un peu les ceintures, on va décoller, parce qu'on est face à un métaphysicien qui utilise des termes de philosophe pour penser la messe. Il écrit ça en 65, ici, pour les petits frères de Foucault. C'est publié en 68 dans Nova et Vetera, la revue du cardinal Journet, à Genève. Et son idée, c'est justement quelle est l'application du sacrifice. C'est-à-dire comment moi, je fais quelque chose de ce sacrifice. Il y a vraiment eu sacrifice, il y a eu du sang versé, il y a eu un homme qui est mort. Qu'est-ce que j'en fais ? Maritain va donc répertorier différentes postures théologiques au nombre de 5. Et le démarrage de son propos, c'est d'avoir entendu deux frères dominicains parler de l'Eucharistie, écrire, et Maritain dit « Je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis un peu froissé. » Et dans les 5 postures, il range aussi son ami, le cardinal Journet. Alors, je vais vous les donner, les 5 positions. La première, il s'agit d'une destruction sacrificielle dans la messe, distincte de celle de la croix. C'est la position soutenue par Bellarmin, par les Salmanticenses, c'est-à-dire les carmes de Salamanque. C'est la communion du prêtre consommant le Christ glorieux qui constitue cette destruction. Pour le théologien De Lugo, il y a un sacrifice parce que dans la consécration, le Christ glorieux est détruit quant à son mode humain d'existence. Pour les sus, la double consécration constitue une immolation mystique du Christ glorieux. Ce qui dérange Maritain là-dedans, c'est de faire porter au Christ glorieux l'immolation. C'est quelque chose qui ne tient pas la route. Deuxième posture. Suarez, voilà, c'est carrément liquidé. La messe est un sacrifice spécifiquement et essentiellement différent du sacrifice de la croix. Maritain commente aux dépens de saint Paul et de l'unité absolue du sacrifice du Christ. Il y a une unité. Il est fait une fois pour toutes. Est-ce un écho qui, de siècle en siècle, se répercute comme un écho, en perdant un peu d'intensité. Non, ça ne tient pas la route, ce n'est pas possible. Donc, troisième position, le père de la taille, celui qui est à l'origine de la réflexion de Journet dans les années 22-24. Le Christ est au ciel, à l'état de victime et d'immolation. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un accent tonique qui ne va pas, qui passe à la bonne syllabe. Ce n'est pas possible que ce soit d'abord cette vision du Christ. Hostie perpétuelle. Et c'est l'Église qui, par son acte d'offrande, donc l'accent tonique tombe sur l'Église, certes elle est épouse du Christ, épouse mystique, mais quand même, qui s'approprie cette hostie perpétuelle. Quid de la résurrection ? Le vendredi saint, sans le samedi qui descend aux enfers, et sans le dimanche, c'est un peu un triptyque lésé, on va dire, on lui enlève 2/3. Pour M. Lepin, le sacrifice de la messe est simplement l'offrande que le Christ glorieux fait de lui-même sous les signes représentatifs de son immolation passée. Maritain, signe représentatif, on aurait donc une sorte, pour parler en termes kantiens, de phénomène qui s'opérera nous mène à une réalité qui sera ailleurs. Ça ne tient pas la route. Quatrième position. Pour le cardinal Billot et le père Garrigou Lagrange, grand ami de Maritain, c'est lui qui a prêché les retraites thomistes à Meudon des années 24 à 39. L'offrande invisible du Christ glorieux sacramenté, jointe à un signe extérieur d'immolation, suffit à constituer un sacrifice propre et réel. Autrement dit, on prend un petit dénominateur commun pour ne pas rester simplement au ciel et être un peu sur la table de l'autel, dans la messe. Et puis il suffit, hop, d'un tout petit contact pour que ça suffise. C'est pas donner grand crédit à la messe quand même, qui est quand même léguée par le Christ. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Cinquième position. Alors, une fois qu'il aura tout éclusé, Maritain proposera la sienne. Au plat. Cinquième position. Don Vaunier, le cardinal d'Épicier. La présence du Christ glorieux sur nos autels représente et applique le sacrifice de la croix qui se trouve ainsi présent d'une certaine manière. Maritain retient là-dedans 2 mots. Applique et présent d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que Maritain, en thomiste, est sensible à la modalité. La modalité, c'est la manière d'être. Aristote, ça vous dit quelque chose avec les catégories. Il a mis au point 10 catégories, la relation, et ce sont des modalités. Alors là, il y a peut-être quelque chose à glaner. Modalité et application. Qu'en faire? Pour Marita, ces 5 postures sont quand même, je cite, une mauvaise perspective qui consisterait à chercher du côté du Christ glorieux l'explication du sacrifice de la messe. Autre perspective, le Christ passible, tel qu'il a été au calvaire, dans le sacrifice absolument unique par lequel il a racheté le genre humain d'un seul coup. Marita est un philosophe réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de l'ontologie. En ce sens, si Girard bascule dans les années 60 vers la structure, et pas le structuralisme, la structure, en mettant au point la théorie finalement du bouc émissaire, mon hypothèse, c'est que dans cette théorie, il y a une perte de ce que j'appelle l'existentialité, qu'il a dans le premier écrit. Parce que le premier écrit ne s'articule pas que sur des figures romanesques. Ces figures romanesques elles-mêmes s'arc-boutent sur du vécu humain. Stendhal, c'est contemporain de Balzac, c'est une fresque. Et donc, il y a une existentialité qu'on a dans le premier livre de Girard qui se perd dans cette mécanisation, ce mécanisme, cette théorisation du bouc émissaire, mais que Girard maintient, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait un système. Et donc, il la maintient, il applique, il est un véritable anthropologue, il cherche les applications, mais il se retrouve coincé au moment de l'Eucharistie. Parce qu'il y a eu une perte malgré tout, et l'Eucharistie, sa note existentielle, qu'on peut récupérer uniquement si on passe par l'humanité du Christ, et qu'on quitte l'approche de ces 5 postures qui sont par le Christ glorieux. Donc passer par l'humanité du Christ, c'est comprendre l'Eucharistie pour Maritain, et c'est du coup expliquer peut-être ce que j'appelle le trou noir girardien, le fait qu'il n'ait pas écrit de texte sur l'Eucharistie, parce que malgré cette dimension existentielle de son œuvre, il y a de toute façon une perte dans le bouc émissaire. Le désir mimétique est une chose, vous comprenez bien, c'est beaucoup plus existentiel que le bouc émissaire qui est de l'ordre de la structure. Donc, ne pas parler de structure, mais si d'ontologie ou d'existentialité pour l'Eucharistie, me semble la juste piste. Et donc, je vais sauter à pieds joints à cause du temps sur la correspondance journée Maritain pour arriver sur les cris de Maritain à la fin de sa vie, donc en 1965, ici, à Toulouse. Maritain va insister sur cette modalité. Il va dire qu'il y a une modalité sanglante du sacrifice du Christ au calvaire et une modalité non sanglante à la messe. Donc ici, cette modalité, Maritain va trouver un ordre intermédiaire et va dire... La modalité porte, c'est subtil, sur le mode de présence. Et avec cette nuance, Maritain pourra parler d'application. Alors il va faire des petits schémas qui vont nous être utiles. Le premier schéma, Christus Viator, qui s'applique au calvaire, vous le voyez, et on a un seul acte pour tout l'éternité, pour tous les temps, j'allais dire, des temps de l'histoire. Et vous voyez qu'il va s'appliquer dans les flèches en pointillés, à différents temps, à différentes époques, à différents jours, selon la chronologie représentée, comme d'habitude, par la flèche horizontale. L'erreur de nos théologiens est représentée ici avec le Christus gloriosus ut passus, donc glorieux, mais en tant que passif, et qui donnerait la grâce actuellement donné, c'est-à-dire en acte, pour un aristotélicien, l'acte c'est la perfection, la puissance est un état imparfait, le premier moteur pour Aristote, il n'est que acte. Il ne peut pas avoir des potentialités qui pourraient ne jamais se réaliser. Donc il n'est que acte. L'acte c'est la perfection. D'où, avec Gisson, la relecture de Exode 3, 12, je suis celui qui suis dans le buisson ardent, et de là on a parlé de la théologie du buisson, la théologie de l'acte, puisque la modalité du Christ, du Dieu de l'Exode, c'est que son essence, c'est d'exister. Son essence, c'est un acte d'exister Exode, buisson ardent, chapitre 3. Donc ici, c'est en vertu du gloriosus ut passus que le sacrifice de Christus viator, pour rappel, nous sommes in via, c'est-à-dire en pèlerinage sur terre, pour voir Dieu quand nous serons in patria, dans la patrie, donc après la mort. Et donc ce viator a fait son travail, mais il faut cette grâce du Christ glorieux pour actuer le travail, on va dire, du sacrifice unique, rédempteur du calvaire. Ce qui compte ici, c'est la flèche du temps. Parce que Maritain est très clair, et en tant que philosophe, c'est toujours une tension la philosophie, je parlais tout à l'heure de l'essence et l'existence, j'en prends une autre tension, celle du temps et de l'espace. Et Maritain va dire, l'immolation, donc le sacrifice, qui constitue pour lui la messe, elle relève du temps. Son problème, c'est le temps, c'est-à-dire l'application selon quelle modalité de présence du Christ. En revanche, la consécration, l'eucharistein, relève de l'espace. Il s'agit de transsubstantiation. C'est magistral. C'est magistral qu'un philosophe, en tant que philosophe, parle ainsi de l'Eucharistie et de la messe. Donc, la rigueur exige de raisonner par l'absurde. Maritain continue et dit, est-ce que la mort pourrait être une modalité? Et il écrit, la mort n'est pas un mode. Il est donc impossible de dire qu'une immolation consistant dans la mise à mort d'une victime est une et une immolation ne consistant pas dans la mise à mort d'une victime ne diffère que par la mort. Donc elle diffère par autre chose, parce que ce n'est pas par la mort, c'est par le mode. Et qu'est-ce que c'est que ce mode qui concerne la modalité de la présence à un certain moment du temps? Eh bien, au calvaire, l'immolation de Jésus a été présente à un certain moment du temps de l'histoire du monde où les Juifs étaient soumis à l'Empire de Rome, à la messe. Cette même immolation est rendue présente sous quelle modalité? Par miracle. Pas par présente, mais par miracle, à un certain moment de notre temps à nous. Autrement dit, Maritain ouvre ici quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, de la méga ouverture. On a parlé du sacrifice des sacrifices qui annule le sacrifice une bonne fois pour toutes, certes, mais là, on a quelque chose de qui renverse la chaussette, qui la met à l'envers, et qui se tourne tout de suite vers un ailleurs, celui du miracle, celui de la joie, cette petite joie qu'on avait dans la dédicace de Blois, et qui n'est pas du jansénisme, et qui cette juste ligne de crête. Que va exiger l'application du sacrifice dans cette modalité de présence christique à la messe? On y va. Maritain précise, c'est son troisième point. Immolation sanglante et immolation non sanglante. Les qualificatifs sanglant et non sanglant peuvent être compris comme se rapportant soit à l'immolation elle-même, soit, vous devinez, à la manière, c'est-à-dire à la modalité, dont elle est présente à un certain moment du temps, et du même coup, à la manière dont elle est offerte, disons à son mode de présence à un moment du temps et à son mode d'oblation. Et là, je passe au deuxième schéma. Christus viator, Christ détruit et offert, on est dans le temps. Christus gloriosus ut passus, et là ce qui a changé, c'est consécration par le prêtre. On n'a pas besoin de tenir en soi une sorte de grâce qui viendrait du Christ glorieux et qui a encore un reliquat des cinq postures où on met en avant d'abord le sacrifice, mais c'est la consécration par le prêtre, c'est-à-dire le miracle, qui va permettre l'application de cette modalité de présence non sanglante du sacrifice christique. Ça vous paraît des nuances de philosophe, mais en fait, vous allez voir l'arrivée. Là, on est dans la course, on monte, on transpire, on a soif, on a chaud, on fait notre téléthon, mais on va arriver au sommet. Et là, vous allez dire que c'est quand même génial, absolument génial. La foi catholique nous demande d'énoncer d'un même souffle que le sacrifice de la messe est un sacrifice réel et proprement dit, et non une simple commémoration, C'est Maritain qui écrit ça au petit frère. Et que néanmoins, c'est essentiellement le même sacrifice que celui du calvaire, parce que le sacrifice est absolument unique. On doit donc, ou bien, affirmer l'unicité absolue du sacrifice du Christ et nier la réalité du sacrifice de la messe, ou bien affirmer la réalité du sacrifice de la messe et impliquer la négation de l'unité absolue du sacrifice du Christ. Donc, il est certain, et c'est la démonstration, que les mots sanglants et non sanglants se rapportent non pas à l'immolation elle-même, mais à son mode de présence à tel ou tel moment du temps. Non sanglant, dans le cas de la messe, c'est un mode miraculeux dû à ce signe, à portée existentielle, qu'est la double consécration de l'hostie et du calice, et qui signifie la mort du Christ. Alors là, on freine, on était à 200 à l'heure, on passe à 15 à l'heure dans le village, et on se dit, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la double consécration séparée de l'hostie et du calice qui signifie la mort du Christ. Ah oui, peut-être séparation de l'âme et du corps, peut-être moment véritablement revécu. Le mot existentiel n'est pas de moi, il est de Maritain, à portée existentielle. C'est un philosophe existentialiste, au sens non académique sartrien, vous avez compris. Le mode de l'oblation suit le mode de présence de l'immolation. Il y a eu, opéré par Jésus sur la croix, une oblation de lui-même et de son sacrifice, et là on retrouve quelque chose de girardien, qui était immanente à l'immolation elle-même et ne faisait qu'un avec elle. Cette oblation était sanglante comme l'immolation elle-même et comme la présence de celle-ci à un certain moment de l'histoire du monde. Mais c'est extraordinaire. N'oublie pas qu'une œuvre majeure de Maritain s'est distinguée pour unir. 1932, le sous-titre c'est les degrés du savoir. Distinguer pour unir. Là, il distingue. Il distingue, mais ça nous permet non seulement d'unir, mais de comprendre. Pour Maritain, il y a une exigence de l'intelligence, elle est à l'image de celle de Dieu. On ne peut pas laisser le concept de côté, quoi. On ne peut pas dire, parce que c'est un mystère, il faut avoir une intelligence mystérique. On fait de l'à peu près, on fait n'importe quoi. Il dira, il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Beaucoup ont l'esprit mou et le cœur sec. C'est son grand slogan. Dans la lettre publique de 1926 avec Jean Cocteau, il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Fermeté du concept. Miséricorde très large. Il nous laisse 42 000 lettres, Maritain. Il nous laisse 42 000 lettres. On ne sait même pas comment c'est possible, quand on est ambassadeur à Rome, d'écrire le contraité d'existence de l'existence, de faire le Saint-Louis des Français tel qu'il est maintenant, avec une bibliothèque qui fait venir des conférenciers, des concerts, etc. Plus les lettres, plus comme en tant qu'ambassadeur s'occuper de tous les perdus juifs, on ne sait pas où ils sont, jusqu'à ce qu'on découvre l'horreur. Toutes les femmes éplorées, la veuve de Benjamin Fondane, qui dit, mais oui, Benjamin. Et bien voilà, 42 000 lettres. Avec qui ? Ben tout le monde. Des présidents de la République, des chefs d'État, des moines, des prêtres, des pauvres, des adolescents paumés, qui viennent frapper à sa porte. J'ai entendu parler de vous, monsieur Maritain, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, on va au cinéma, bien. Allez hop. C'est dans son journal. Il sort au cinéma quand on frappe à sa porte. Voilà, le grand métaphysicien. Donc voilà, l'esprit dur, c'est le concept qui exige ça. Le concept, c'est pas d'à peu près. Et le cœur doux. Beaucoup ont l'esprit mou et le cœur sec. C'est 1926, la lettre publique à Jean Cocteau. Donc ici, le nœud du mystère, quel est-il ? La messe est un sacrifice réel et proprement dit. Et pour qu'il y ait identité entre le sacrifice de la messe et celui du calvaire, il ne suffit pas qu'il y ait dans les deux cas une seule et même victime, il faut qu'il y ait dans les deux cas une seule et même mise à mort. Et là, on sort du jansénisme. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Être chrétien, c'est apprendre à ressusciter. Mais c'est la mort des idoles. Il n'y a que ça dans la Bible. La lutte des idoles dans l'Ancien Testament, je ne vous rappelle pas le veau d'or, et dans le Nouveau, c'est la même chose. Mais elle ne s'appelle pas veau d'or, elle s'appelle nous-mêmes, elle s'appelle ce que vous voulez. Absolument génial. On sort de la théologie sacrificielle par cette nuance, la mise à mort. Alors il gardera la théologie sacrificielle, mais avec la note bloyenne du début, la joie. Bananos, il écrit sur Saint Thérèse en disant, Qu'est-ce qui compte? C'est la joie. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux? La joie, mais en faisant la quatrième vertu théologale. C'est évident. Alors voilà, on y est, ben voilà, on est au sommet de l'Everest, ou presque. On y va, encore quelques mètres. Il faut que chaque messe, parce que l'immolation sanglante du Christ sur la croix s'y trouve à un moment donné, rendue réellement, quoique invisiblement présente, sous mode non sanglant par le prêtre agissant sur nos yeux, et là, tenez-vous bien, c'est magnifique, fasse coïncider le moment en question de notre temps avec le moment lui-même de l'immolation du Christ au calvaire, autrement dit, nous transporte en quelque façon, nous rende présents à ce moment du temps passé où a lieu le sacrifice réel et sanglant du Christ auquel, si invisible qu'il nous reste, l'action du prêtre nous fait, pendant un instant, réellement assister. Oh là là, c'est vertigineux. On devrait donner ça en homélie à tous nos prêtres. La question essentielle au sujet du mystère de l'Eucharistie se formule en fonction de la présence dans l'espace, transsubstantiation, celle du sacrifice de la messe en fonction de la présence, en écho, dans le temps. Par le moyen du signe sacrificiel, la toute-puissance divine nous rend présents au sacrifice de la croix, éternellement conservé au ciel. Il s'agit de quoi ici? D'articuler le temporel sur le spirituel, de faire descendre l'éternité dans l'histoire. Mais c'est le geste christique. Mais il n'y en a pas d'autre. La crèche, la croix. C'est la théologie de l'incarnation. Prenons au sérieux l'incarnation. C'est la seule religion qui ne fuit pas le temps et la chair. On ne va pas aller se faire petit dans le tout, etc. Il n'y a pas de fusion, il y a une union, parce que le Christ se fait homme dans l'histoire, dans le temps. Prenons au sérieux le temps de la messe. Et donc, un cran plus loin, il nous reste 10 mètres et on est au sommet d'Everest, sur les magnifiques glaciers. Il faut passer par un petit détour. Le principe de Saint-Pierre d'Amiens. Il me reste 2 minutes. Le principe de Saint-Pierre d'Amiens, je vous le donne, chaque moment du temps est présent à l'éternité divine. Je vous le résume, j'avais une longue citation qui servirait pour une table ronde dans l'éternité. Au moment le plus solennel de la messe, nous sommes réellement rendus présents au sacrifice de la croix tel qu'il a eu lieu dans le passé. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que, par l'effet miraculeux, maintenant vous écrivez le texte de Maritain, on a tout compris, d'un signe rituel apporté, existentiel, accompli sur l'autel, nous sommes réellement, physiquement, rendu présent à ce même sacrifice de la croix, tel qu'il est éternellement conservé au ciel, tel qu'il se tient immuablement présent à l'éternité divine. Ce n'est pas seulement l'acte suprême d'amour du Christ se livrant pour nous, ce n'est pas seulement son oblation intérieure qui sont là devant nous, c'est aussi l'effet physique de son suprême acte d'oblation, par lequel son âme a effectivement quitté son corps. C'est la consommation elle-même de son sacrifice, sa mort sur la croix. Qui dit sacrifice dit mort et immolation. Impossible de sortir de là. En tout cela, l'agent principal, certes, ne peut être que Jésus glorieux, le prêtre éternel, causant miraculeusement, par un acte de sa volonté toute-puissante, la présentialité de nouveaux moments du temps à l'événement passé, selon qu'il est conservé au ciel, immuablement présent, l'éternité divine. Et alors, le cran final que Maritain franchit, on peut le suivre ou pas, mais j'avoue que c'est scotchant, comme on dit maintenant. L'événement numéro 2, produit par le prêtre. Numéro 1, c'est plus 33 après Jésus-Christ, si on prend 0 comme date de naissance. C'est la double consécration, par 2 actes séparés, de l'hostie et du calice, par laquelle, figurativement ou dans le signe produit, le corps et le sang du Christ sont représentés comme séparés, et qui signifie la mort réelle du Christ. Cette double consécration est l'instrument ici-bas par lequel la volonté toute-puissante du Christ glorieux nous met miraculeusement en présence aujourd'hui de l'événement éternel en Dieu, mais définitivement passé quant à l'histoire humaine qui a eu lieu au calvaire. Presque temps réel, Dans cette double consécration, il y a un interstice, celui de l'agonie, qu'on peut revivre. Maritain le croit, Maritain passait des heures à contempler, et c'est peut-être parce qu'il y a une profonde existentialité, un profond réalisme, chercher dans le fini l'inépuisable. C'est ce que Claudel répond à Baudelaire, qui dit « chercher dans l'au-delà l'infini ». Non, chercher dans le fini l'inépuisable, et peut-être c'est ce qui manquait à René Girard quand on passe en 10 ans de vérité romanesque et mensonge romantique avec une forte note existentielle à une théorie qui perd un peu son existentialité, ce qui l'empêchait de penser l'Eucharistie. Je vous remercie.
Nous écoutions donc la conférence donnée par Claire Bressolette le 12 octobre 2024 à Toulouse, au Christ-Roi, au sujet de l'Eucharistie vue par Jacques Maritain.